saga, The Darkest Dawn.
Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la rédaction de Game Info. Salut Mordren.
Salut le tyran, comment ça va?
Ça va très bien. Un podcast que nous avons débuté en musique. Une musique, je crois, qui vous a tous ravis. En tout cas, nous, à Game Info, nous avons été enchantés, n'est-ce pas?
Ouais, ça m'en donne des frissons.
Petite information, en fait, nous avons commencé le podcast avec cette musique parce qu'elle illustre un jeu dont nous allons parler maintenant, à savoir ce jeu, c'est Wing Commander Saga. Alors, qu'est-ce que c'est Wing Commander Saga? C'est un mode, mais pas n'importe quel mode, c'est un mode standalone et un mode vraiment de grande envergure. Il faut savoir que le jeu, en fait, se passe au niveau du background des Wing Commander en même temps que Wing Commander 3. Sauf que là, vous n'avez pas joué le colonel Blair, mais un gros newbie. Et vraiment, dans ce mode, en fait, c'est vraiment un Wing Commander à part entière. En fait, mis à part les acteurs réels, il y a tout d'un Wing Commander. Donc, je vous recommande vraiment de vous procurer ce jeu, qui vient tout juste de sortir, là, récemment. Il faut savoir que ce jeu, donc, est un mode standalone qui a été fait avec le moteur de Free Space 2. La version améliorée, je précise. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir Free Space 2. Hein, vous installez Wing Commander Saga avec l'exécutable et c'est bon, ça se lance. Vraiment, 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 si vous aimez les Space Opera, allez-y, parce que rien qu'avec le trailer, déjà, un trailer donc orchestré par la musique de Monsieur Pierre Gerwig Langer, vous voyez qu'il y a une qualité professionnelle.
Bah oui, clairement.
Je pense clairement tu seras d'accord avec moi, Morgan.
Ouais, c'est sûr.
Et même au niveau du jeu, j'ai eu l'occasion d'y jouer un peu. C'est vraiment du Wing Commander pur jus. Sauf que bon, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas poussé le vice jusqu'à mettre vraiment de vrais acteurs. Mais je comprends que ils aient privilégié les persos en images de synthèse parce que bon, voilà, faut, quand t'as pas
tout à fait les mêmes valeurs de production, je pense. Et,
ouais, voilà, c'est il y a plusieurs raisons à ça et bon, c'est, ça peut se comprendre. Mais quoi qu'il en soit, vraiment un jeu à essayer. Et d'ailleurs, on va continuer ce podcast sur les indépendants avec un retour sur The Age of Decadence. Je vous avais dit le 10 mars, comme ça, il y aura la démo et tout. Alors en l'occurrence, il y avait deux informations qui étaient fausses. D'une, c'est pas une démo, c'est une bêta publique. Mais ce qui est pas plus mal, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de contenu que dans une démo classique.
Ouais.
Je crois qu'il y a à peu près un quart du jeu ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est
d'accord.
Beaucoup de contenu. Et ensuite, l'autre fausse information, c'est qu'ils l'ont pas sorti le 10, ils l'ont sorti beaucoup plus tard, parce que c'est sorti en fait avant-hier ou hier, je sais plus, mais en gros c'est
donc
sorti en fin de semaine.
Le 23 mars, en gros, ouais.
C'est sorti en fin de semaine. Et donc, bah écoutez, allez sur le site d'Iron Tower Studio, il y a un lien direct vers la bêta publique. Je vous mettrai peut-être aussi un lien vers les torrents pour que vous puissiez la tester, parce que vraiment, les liens directs, alors je sais pas si c'est le cas maintenant, mais quand j'ai téléchargé, c'était un peu la merde, hein. Ça téléchargeait à vitesse d'escargot. Donc, quelques petites précisions quand même sur cette bêta. Il y a des NPC en moins, donc ils rajouteront plus de personnages non-joueurs sur la version finale pour que les villes soient un peu plus vivantes. Il n'y a pas encore de système d'alchimie. Ils attendent les retours utilisateurs pour améliorer les interfaces, parce qu'apparemment, il y a des gros soucis sur les grosses résolutions. Gardez à l'esprit quand même que c'est une bêta ouverte, mais en tout cas, ça vous permettra de vous faire une bonne idée du jeu. Pour les bourrins, je vous préviens, c'est un jeu où les combats vont être très durs, où il vaut mieux privilégier le dialogue. Et c'est assez rare dans un jeu de rôle pour être souligné. C'est vraiment un jeu où la parlotte prime autant, si ce n'est plus, que les actes. Donc vraiment, allez-y. C'est un jeu de rôle comme on voit très rarement dans la Rome antique, je le rappelle. Donc faites-vous plaisir.
Ouais. Puis il faut profiter des phases de bêta ouverte comme ça pour se faire une première idée sur les jeux. Donc,
première idée sur le jeu.
Vraiment
donc, profiter. Apparemment, elle est vraiment très longue. Faites-vous plaisir.
C'est ça.
Edge of the Carence, où c'est l'un des seuls jeux où tu peux jouer un arnaqueur. Et ça, c'est beau.
Ça, c'est bon. C'est bon, ça.
ensuite, on va toujours sur les indépendants, hein, parce que même si les modders, je pense qu'on peut les compter dans les indépendants, n'est-ce pas?
C'est vrai.
On va parler de Monsieur Brian Fargo. Et peux-tu nous donner des précisions, mon cher Brandon, sur cette brillante idée qu'a émis Monsieur Fargo?
Alors, Brian Fargo, donc pour resituer rapidement, il a fait l'actualité ces derniers temps sur Kickstarter. Là, il a dépassé les 1 500 000 dollars de dons sur Kickstarter sur son projet Wasteland 2. Et donc en gros, là, ce qu'il a proposé, il a dit qu'il voulait passer à une étape au-dessus de Kickstarter qu'il appelle le Kick It Forward. Et donc il propose à certains projets d'utiliser un badge qu'ils appellent donc le Kick It Forward badge. Et l'idée en fait, c'est que une fois que votre projet est financé et que vous avez réalisé des bénéfices, donc après la vente du jeu, ces bénéfices, vous en prenez 5%, vous les redonnez à un autre projet sur Kickstarter. Donc l'idée, c'est de proposer un cercle vertueux sur Kickstarter avec non seulement des projets qui sont financés par les fans et les donateurs, mais aussi par les projets qui ont été aboutis. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée, parce que du coup, ça donne un espèce de cercle vertueux là-dedans, quoi.
Ouais, alors c'est une très bonne idée. Par contre, il y a un truc qui me dérange fondamentalement là-dedans. C'est que, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Kickstarter est un site américain réservé aux projets qui ont un compte aux États-Unis.
C'est vrai.
Et si l'idée de Brian Fargo, c'est vraiment de réserver ça à Kickstarter, ça me dérange, parce que du coup, en fait, c'est une initiative des Américains pour les Américains, quoi. Ouais. Alors que, par exemple, un gars comme Notch, parce qu'il prenait comme exemple Minecraft,
c'est
mais
vrai.
Notch, tu vois, par exemple, c'est un gars qui redistribue à tout le monde. Il redistribue
Suédois.
Sur Kickstarter, qui est suédois, donc européen, qui distribue sur Kickstarter, mais aussi sur plein d'autres projets indés, qui sont pas forcément sur Kickstarter, etc. Et donc, tu vois, là, ça fait un peu, tu vois, bon, on est entre Américains, on se finance entre nous et tout. Moi, je préférerais, tu vois, un système de cagnotte.
Ouais.
Où, bah écoute, on se crée une petite cagnotte comme ça et on se redistribue entre nous et tout, voilà quoi. Bon après,
ouais.
C'est vrai que pourrait y avoir une objection à ça, c'est que ça peut faire le copinage, etc.
Aussi.
Voilà.
Mais là, ça, je pense que ça favorise aussi le copinage, cette histoire de Kick Forward, parce que si tu donnes 5%, tu vas bien te douter que tu vas pas donner 5% de bénéfices à n'importe qui. Donc tu vas au moins faire attention au projet que tu vas soutenir. Et si ça peut être des amis, c'est tant mieux à mon avis. Donc voilà. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée quand même de faire ça, parce que ça apporte une dynamique au milieu encore plus. Donc
Alors, à surveiller. Tu vois, ça serait un Français qui proposait ça, je m'en méfierais grandement, parce qu'on sait. L'envergure que peut prendre le copinage en France, comme ça, dans tous les cas, bah écoute, on va suivre ça avec intérêt, n'est-ce pas? Mais encore une fois, franchement, ça me dérange un peu que ça fait quand même, bon, on est entre Américains.
Il y a peut-être une question de, je sais pas, de transfert d'argent qui coûte un petit peu plus cher.
Alors apparemment, c'est par rapport à Amazon Payment, en fait.
Ouais. Bah moi personnellement j'ai déjà fait un Amazon Payment et j'ai jamais eu de
non mais c'est vrai que à la réflexion faite je ne suis pas sûr d'avoir vu des sites européens utiliser Amazon Payment, donc si quelqu'un a un contre-exemple qu'il le fasse savoir,
je sais pas.
Nous intéresserait ensuite nous allons parler d'une autre initiative, et cette initiative c'est la cité du jeu vidéo. Alors, il me semble que c'est lancé par Frédéric Mitterrand, c'est ça?
Oui, par le ministère de la Culture en général. Et bon, on les connaît, hein, les initiatives concernant le jeu vidéo. Il y en a beaucoup qui se cassent la gueule. Notamment, c'était le musée du jeu vidéo, hein, c'est ça, qui a été bouclé parce que pour un problème d'ascenseur ou je sais pas quoi. Qui était à la
Non, mais c'est pire que ça, en fait. Au départ, il y a eu un problème d'ascenseur, mais il devait y revenir, hein. Mais le truc, c'est que je sais plus quel ministère c'est, et c'est un des ministères qui en gros a voulu s'approprier l'étage où il y avait le musée du jeu vidéo, mais il y avait autre chose, hein, il y avait aussi le musée de l'informatique, etc.
Oui.
Et ils ont dit, bah écoutez, on va s'approprier les lieux et vous dégagez.
Ok, donc ça c'est le genre de passif qu'on a au niveau des initiatives du jeu vidéo et du ministère de la Culture. Bon, on a aussi Game Story, qui est un vrai succès. Mais là, en fait, donc Frédéric Mitterrand a fait une allocution, en a profité pour donner des prix à certains développeurs, et il a aussi parlé de la cité du jeu vidéo qui devrait voir le jour donc fin 2013. Et donc l'idée, en fait, c'est de prendre 1000 mètres carrés de la cité des sciences qui seront entièrement dédiés à la cité du jeu vidéo. Et donc l'idée, donc, c'est de pouvoir évidemment accueillir le grand public, mais aussi des acteurs de l'industrie en France, bon, si, en France surtout, je pense que s'ils ont l'occasion d'avoir des interlocuteurs étrangers, ils le feront, mais surtout des interlocuteurs français, avec donc les écoles pour les formations dans le jeu vidéo, certains éditeurs, certains développeurs qui seront présents de temps en temps. Donc l'idée, c'est d'avoir une dynamique sur cette culture du jeu vidéo, de la faire découvrir, mais aussi la développer. Et je pense que c'est une bonne idée, parce que bon, c'est vrai que on est peut-être un petit peu déçu de certains essais d'institutionnalisation du jeu vidéo dans un endroit fixe. Et je pense que la Cité du jeu vidéo pourrait à terme devenir ce lieu important d'échange sur le jeu vidéo, sur sa culture, et puis développer tout ça, quoi.
Après, il faut voir comment c'est fait, parce que
bien
moi,
sûr.
il y a un truc qui est généralement, que je trouve très gênant en France, c'est que on est un peu pompeux, tu vois. On aime bien les trucs un peu sérieux. Quand il y a du sang, on n'aime pas.
C'est vrai.
Faut que ça soit culturel, tu vois, mais culturel dans le sens pompeux du terme. Moi, fondamentalement, l'initiative, je la trouve bien. Mais si c'est pour faire un truc comme on a l'habitude de le faire, où en gros il y a des jeux qui seront exclus, il y a des studios qui seront exclus parce qu'ils seront pas, sont trop polémiques aux yeux du ministère de la Culture, enfin voilà ce genre de choses, je pense que ça serait contre-productif pour le jeu vidéo, quoi.
Bien
Ce
sûr.
Genre d'exclusion, ça n'apporte rien.
Après, moi ce que je trouve intéressant, c'est l'accès peut-être rendu, enfin faciliter l'accès à ces écoles et ces formations dans le domaine du jeu vidéo. Ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant, parce que souvent les jeunes se disent, mais moi j'aimerais bien, enfin moi ça me plairait de travailler dans ce milieu-là, mais je sais pas du tout quelles sont les portes d'entrée, comment on fait, enfin, et s'il y a cet endroit-là qui permet ce dialogue-là, je pense que ça peut ouvrir des portes à terme. Après, encore une fois, il faut que la cité du jeu vidéo soit assez variée pour représenter toute la dimension du jeu vidéo, parce que il y aura évidemment du rétro gaming avec l'histoire du jeu vidéo et tout. J'imagine qu'il y aura du jeu vidéo actuel, mais alors à ce moment-là, quel jeu vidéo actuel on prend? Est-ce qu'on élargit à tout, à l'indépendant comme au triple A, au jeu vidéo qu'on considère comme violent et que certains condamnent?
On en reparlera tout à l'heure, n'est-ce pas,
hein? Exactement. Donc il y a encore le temps pour que le projet mûrisse. Faut savoir que le ministère de la Culture a quand même débloqué 1 million d'euros pour soutenir le projet, ce qui est pas rien. Donc il faut voir ce qui est fait de cet argent et comment le projet va se concrétiser, et si à terme la population des joueurs peut se reconnaître dans une initiative pareille. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça avance dans l'idée du jeu vidéo qui est un petit peu plus légitime. Enfin,
ouais.
Voilà.
Moi,
j'y crois pas trop, mais bon,
on
verra qu'il y a des contre-exemples, quoi.
Tu veux, c'est bien des initiatives comme ça, mais d'un autre côté, il faudrait peut-être qu'enfin les politiques arrêtent à chaque fois qu'il y a une tuerie ou un truc comme ça de nous emmerder avec c'est la faute du jeu vidéo. Enfin, le genre de discours, tu vois, qu'on avait avec le jeu de rôle il y a une dizaine d'années, tu vois. Enfin, il y a toujours un double discours qui me gêne avec les politiques. Et, enfin,
ouais. C'est ça qui est assez pénible. Et d'ailleurs, on peut se surprendre que ce discours arrive maintenant. Enfin, c'est assez marrant, parce qu'il y a eu des discours qui ont été tenus après les tueries récentes.
Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on va enchaîner tout de suite
là-dessus.
Ouais,
on va peut-être en parler tout de suite, ouais, t'as raison.
Ouais, parce que on a eu notamment les propos, bon, d'un candidat à la présidentielle qui, entre nous, n'est pas vraiment sérieux, je pense.
On dira pourquoi, oui.
Ouais.
Au niveau des sondages, donc on parle de Jacques Cheminade, là, qui, je sais même pas du tout, enfin, où est-ce qu'il se place sur l'échiquier politique, et à vrai dire, je m'en tape un petit peu. Mais, en gros, il est à moins d'1% d'intention de vote, donc ça, c'est pour vous resituer un petit peu le personnage, et aussi pour vous resituer le personnage, c'est le genre de mec qui dans son programme dit qu'il veut faire un tunnel entre la Terre et la Lune via Mars. Donc voilà. c'est pour vous resituer un petit peu la crédibilité du personnage. Bon, c'est, je troll un petit peu, il y a pas que ça dans son programme, mais il y a ça aussi. Il faut le savoir. Donc, ouais. Bon. Et ce monsieur, donc après les fusillades de Toulouse, qui dit, les jeux vidéo violents doivent être interdits, et tous ceux dépourvus de contenu pédagogique doivent être surtaxés. Alors, il y a deux choses dans son discours. Les jeux vidéo violents doivent être interdits, mais purement et simplement, c'est-à-dire que jeux vidéo, violence, ça n'existe pas, il n'y en aura pas, censure. Première chose. Deuxième chose, les jeux vidéo qui sont dépourvus de contenu pédagogique, donc qui n'apprennent rien aux joueurs,
ouais,
doivent être surtaxés. Donc c'est-à-dire que un jeu vidéo qui n'est pas considéré comme apportant quelque chose à la culture d'un joueur doit être surtaxé, et donc évidemment on va utiliser ça comme un espèce d'impôt pour surtaxer les joueurs aussi.
En plus on va dire, mais il faut donner la définition précise de ce qu'est un contenu pédagogique, parce que bon, c'est assez vague quand même pour
Ouais, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que qui dit qu'un jeu donne un contenu pédagogique, c'est-à-dire c'est quel est le contenu pédagogique qu'on peut donner à un jeu vidéo? Est-ce que on peut dire que Assassin's Creed a un contenu pédagogique?
Est-ce Après qu'on peut tout, dire ça, que... le prochain épisode va traiter de la Révolution, voilà, etc., la Révolution américaine, voilà, sur le plan de l'histoire. Est-ce que c'est pas pédagogique? On
c'est
peut
ça.
Dire ça. Et on pourtant, ça va être un jeu a priori qui sera assez violent, je pense, quand même.
Et donc, il devrait être interdit, selon voilà, Monsieur Schmidt. Donc, il y a un souci là dans le discours. Et donc, est-ce que un jeu à contenu pédagogique, est-ce que c'est, je sais pas moi, Adibou entre en CP? Est-ce que voilà, c'est ça aussi? Est-ce que c'est que ça un jeu à contenu pédagogique? C'est une autre question. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels nous jouons qui ont un contenu pédagogique au regard de ce monsieur-là? Et ça pose une vraie question. C'est-à-dire que quel est le contenu pédagogique qu'ils veulent voir dans un jeu vidéo?
Ouais, parce que
le flou est vraiment ridicule, quoi. Bah, c'est de la phrase.
Si tu veux, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que ce discours-là, tu vois, bon, ok, c'est un fondamentalement, tu veux dire, vu la personne qui le prononce, on peut se dire que bon, a priori, on peut être rassuré, ça va pas, on est tranquille, quoi.
Oui.
Je pense pas que monsieur,
ça va pas terminer à l'Élysée, c'est
sans
que
vouloir, sans voir monsieur manquer de respect à monsieur Cheminade, je pense pas qu'il sera élu président de la République, sauf miracle du Saint-Esprit. Le truc là, c'est que je suis pas convaincu que les politiques des principaux partis soient très loin de ce discours, parce que à plusieurs reprises, on a entendu des politiques de droite comme de gauche accuser les jeux vidéo d'être violents, etc. Enfin, tu sais, c'est le discours habituel qu'on a, que ce soit avec les jeux vidéo ou même Internet. Hein. C'est les jeux vidéo, c'est bien, mais et t'as toujours un truc derrière, tu vois, qui arrive pour décrédibiliser le truc. Et franchement, le mec a beau pas être sérieux, je pense que y a pas mal de personnes qui modérées entre guillemets qui partagent son opinion. Hein. Donc,
je suis assez d'accord, mais ça c'est le problème parce que donc là pour en revenir, bon pour quitter un petit peu Monsieur Jacques Midad, c'est l'espèce de cliché et qui te dit que le jeu vidéo est fondamentalement violent. Et que c'est prouvé, alors que c'est totalement faux, que c'est prouvé que les joueurs deviennent violents à cause des jeux vidéo violents. Donc là, on a un vrai problème, c'est-à-dire que les espèces d'orateurs qui n'arrêtent pas de rabattre les oreilles de la population française, qui n'arrêtent pas de te dire que le jeu vidéo c'est violent et qu'il faut faire attention aux jeux vidéo, que le jeu vidéo, s'il n'est pas contenu, peut être potentiellement dangereux. Ça c'est typiquement le genre de discours qu'on entend par une certaine Nadine Morano, quoi. Et Nadine Morano, c'est l'UMP, c'est pas non plus le plus petit parti de la France. Donc il faut faire quand même attention à ne pas généraliser ce genre de discours, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher, dès qu'il y a quelque chose qui les font un petit peu réagir et pour lesquels ils n'ont pas réellement, comment dire, d'explication, ils disent ah bah c'est le jeu vidéo, et le jeu vidéo, il y a des gens qui tirent dans le jeu vidéo, bah
n'est-ce pas mademoiselle Laure Manaudou,
Laure Manaudou qui nous dit donc sur son Twitter, qui dit qu'il faut supprimer ces jeux vidéo à la con. Pourquoi? Parce que ça fait des fusillades.
En l'occurrence, bon, depuis, elle s'est fait remettre à sa place par pas mal de monde, y compris la presse généraliste, qui pour une fois, c'était assez surprenant d'ailleurs, a dit, mais elle est complètement à côté de la plaque. En plus, non, mais en plus sur le coup, tu vois, c'est comme il y avait, mais vraiment aucun rapport. Encore, on aurait retrouvé, je sais pas, un exemplaire de Counter-Strike chez le mec. On aurait encore pu se dire, bon, comme d'hab, ils nous ont fait le coup, etc. Ils ont vu un jeu vidéo, le mec, oh mon Dieu, surprise, comme une bonne partie des trentenaires chez les Français, cet homme jouait à des FPS. Oh, forcément, c'est un futur tueur. Et d'ailleurs, tous les trentenaires de ce pays vont tuer des enfants. Enfin bref, c'est le
Je
truc, tu
pense
vois,
qu'à ce rythme-là,
c'est...
il y aura plus grand monde, hein.
Sauf que là, en plus, le mec, apparemment, c'était même pas ça. Les gens, comme leurs manous sont tellement conditionnés, tu vois, on leur a
C'est ça.
tellement bourré le crâne avec des bêtises, je sais même pas si les gens réfléchissent quand ils disent ça.
Ouais. Donc bon, et alors ce qui est assez marrant en plus, c'est que donc Lormanodou se dit bon, je vais exprimer mon point de vue, je vais l'exprimer sur Internet pour que tout le monde puisse le voir. Donc c'était sur Twitter que ça s'est
Ah bah
passé.
pour le coup, ça a pas loupé, hein.
Et ça c'est ce que je trouve génial, c'est à quel point l'Internet peut être rapide pour rabattre le caquet de quelqu'un qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Et là, franchement, la réaction a été exemplaire. C'est-à-dire que dans les, je sais pas, dans l'heure qui a suivi, Lormanodou a dit, oh mais dites donc, je trouve que c'est très agressif ici. Au revoir Twitter. Donc elle a complètement coupé son Twitter, elle a arrêté son Twitter, elle a fait un énorme rage quit, comme on peut dire ça.
Ouais, non, mais en plus pour reprendre, c'est un monsieur dont je vais vous parler souvent, hein, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, pour reprendre les propos d'un certain Benjamin Bayard. T'as différentes étapes dans la vie du bébé internaute, tu vois. T'as l'acheteur, t'as le kikoulol, et t'as le pas content, tu vois. Et
Oh là là,
Lormanodou, c'est
c'est ça.
quelqu'un qui arrive sur Twitter et qui dit pas content. Mais finalement, moi je trouve ça très bien, tu vois, qu'il y ait des gens comme elle qui arrivent sur Internet et qui disent pas content. Parce que en face, il y a des gens qui connaissent le sujet et qui lui disent en gros, non mais écoute, là tu dis de la merde, hein, t'es bien gentil, donc si t'as rien d'autre à dire, écoute, tu te tais et tu te casses, quoi.
C'est ça.
Et ça, c'est très formateur. Enfin, il y a des citoyens en face qui vont leur dire, bon, vous êtes gentils les mecs, vous allez arrêter de dire des bêtises, parce que nous, on connaît le sujet, on sait de quoi on parle, et contrairement à vous, on sait que vous dites de la merde. Et nous, vous voyez, nous, on vote pour vous. Nous, on sait de quoi on parle. Donc, à un moment donné, si vous voulez notre vote, va peut-être falloir, vous voyez, que vous commenciez à parler sérieusement du sujet que vous connaissiez, et quand vous ne savez pas, renseignez-vous. Et
C'est ça.
ça, je trouve ça très bien. Et vive Internet, encore une fois, moi c'est un outil que je trouve merveilleux. Vive Internet, parce que, enfin, peut-être que, à force, tu vois, de se rendre des claques dans la gueule, les gens vont comprendre que, il faut réfléchir un peu avant de parler, tu vois.
C'est ça. Et d'autant plus à l'heure de Twitter et Facebook qui donnent un espèce de contact direct. Bon, alors c'est pas forcément le politique en lui-même qui tweet tout, mais il y a un espèce de relation directe qui se passe, et avec une génération qui est pas forcément celle qui regarde la télé, tu vois. Et je pense que c'est important que justement il y ait ce contact-là, et que s'il y a un truc qui nous choque, mais fondamentalement, qu'on ait accès à ce levier-là. Alors je suis pas sûr que
D'ailleurs,
ça soit utilisé tout le temps, mais
nous c'est pour
et
ça qu'on est chaque semaine sur ce podcast, hein. C'est parce qu'on a envie d'exprimer nos opinions, etc. Bon, on dit parfois, même à mon avis très souvent, des conneries. On essaye en tout cas de s'y coller quand même. Et quand on dit des bêtises, en tout cas, moi s'il y a des bêtises que je dis, surtout n'hésitez pas à me corriger, très chers auditeurs, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça qu'on avance sur
Ouais.
Internet. Quoi qu'il en
Voilà,
soit,
on...
donc, pour finir sur cette actualité, on espère que nos très chers politiques vont de plus en plus dire des conneries sur Internet. Comme ça, on
Qu'ils
pourra
comprennent ce que c'est
enfin,
qu'Internet.
ouais, qu'ils comprennent ce que c'est et que surtout, espérons que Internet restera libre, n'est-ce pas, dans les prochaines années,
Ouais. Parce que là
parce
aussi,
que.
il y a des soucis là-dessus.
Parce que voilà, c'est un outil merveilleux qui nous permet enfin de leur répondre à chaque fois qu'ils disent des bêtises. Voilà.
C'est ça.
Quelque chose à ajouter, mon cher Morgan?
Ben non, mais c'est juste qu'il faut. Bon, pourquoi on a parlé de ça? C'est pas forcément parce que on veut porter vraiment de l'importance à ces propos-là, ces propos que nous on considère comme stupides.
Ridicule.
Mais en fait, c'est il faut qu'il y ait quand même des gens derrière pour faire le contre-argument, parce que s'il y a personne pour dire mais vous dites des conneries là, s'il y a personne pour faire ça, ça veut dire que finalement on est plutôt d'accord quoi. Qui ne dit rien consent.
En même temps, j'ai envie de dire, les internautes, ils ont pas besoin de nous, hein. La preuve avec
Bien
Mademoiselle
sûr.
Lormanoudou, n'est-ce pas?
Bien sûr.
C'est bien fait
Mais
bâcher.
je préfère que nous aussi on dise que qu'on n'est pas d'accord plutôt que de dire oh, en fait il s'est rien passé cette semaine. Donc je
Voilà.
préfère qu'on en parle.
Ensuite, donc nous allons passer aux dates, n'est-ce pas? Et nous allons commencer avec le Xbox Live Arcade.
Ouais.
Et alors je crois que ça va parler de Trials Evolution qui sort le 18 avril, de
C'est ça.
Bloodforge le 25 avril, de Fabli Rose le 2 mai et de Minecraft le 9 mai. Ah,
C'est
Minecraft.
ça.
Ah, j'avais oublié. Moi, tu vois, si tu veux, ça fait tellement longtemps que j'y joue sur Minecraft que...
C'est ça. Et ça fait un moment qu'elle est prévue, cette version console. Donc, uniquement Xbox 360 de Minecraft. Elle va finalement sortir. Ça sera le 9 mai. Ça sera pour un coût de 1600 points Microsoft. Donc, en gros, 18 euros. Un truc comme ça. Et c'est vraiment une version qui est pensée pour la console. C'est-à-dire que bon, si vous voyez un petit peu ce que c'est Minecraft, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à penser le jeu pour la console, parce que si t'es habitué à Minecraft, tu fais les choses hyper rapidement, tu craftes tes outils super rapidement, enfin tout va hyper vite. Le problème, c'est quand tu dois repenser tout ça pour la console avec un pad, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est pour ça, à mon avis, qu'au niveau de l'interface, ça a mis longtemps à être développé. C'est qu'il fallait du temps aux équipes pour repenser le jeu.
Juste une chose, 1600 points Microsoft, c'est combien d'euros déjà?
18 euros à peu près.
Ok, d'accord.
Donc franchement, c'est relativement raisonnable. Le jeu maintenant, je crois qu'il est vendu 15 euros sur la version complète, elle est vendue 15 euros, je crois, sur le net.
Alors, je suis pas du tout courant, moi, tu sais, je fais partie de ceux qui l'ont acheté à 10 euros,
C'est
alors.
ça, c'est pareil. Donc bon, c'est à peu près ça. Bah, c'est entre 15 et 20 euros, un truc comme ça. Donc clairement, si vous avez jamais joué à Minecraft, déjà, honte à vous. Et puis tester. Franchement, c'est un jeu qui vaut le coup et qui vous pompera tout votre temps pendant des mois et des mois. Et ça, c'est bon.
Ensuite, un jeu tiré d'un manga culte qui a bercé mon enfance, et ce manga, c'est Gon. Alors, Gon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit dinosaure, n'est-ce pas?
C'est ça.
C'est un petit dinosaure qui est assez violent d'ailleurs.
Ouais, il est tout mignon, mais en fait, il cache bien ses.
Il cache bien son
C'est
jeu.
clair.
Donc, c'est prévu pour le 14 juin sur 3DS.
Sur 3DS, oui, alors bon, pour le moment, c'est prévu que au Japon. Ça s'appellera Gon Bakubaku Bakubaku. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est prévu en fait pour sortir exactement au même moment qu'un animé sur Gon en fait. Donc voilà.
Ah, ça j'étais pas au courant de l'animé.
Ouais.
Oh bah je vais regarder du coup. Parce que
C'est
moi
ça.
vraiment, Gon c'est un de mes premiers mangas, il faut savoir. Au départ moi j'étais plutôt Picsou, etc. Et en fait mes deux premiers mangas ça a été d'une part Dragon Ball et de l'autre part c'était Gon. Et franchement c'est un excellent manga, en tout cas quand j'étais tout petit j'adorais ça. Ensuite on va parler bah, du Paris Games Week, n'est-ce pas?
C'est ça dont on
On
avait
fait
parlé l'année dernière.
On se repart pour faire la queue l'année prochaine,
Ah là
n'est-ce
là,
pas?
oui.
Ça va être
Bon,
génial.
c'est au modo au même endroit que d'habitude, donc c'est du
À
31 octobre au 4 novembre.
Porte de Versailles, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire juste à côté de chez moi. Et donc, bah écoute,
Pratique.
on attend avec impatience cette édition.
Ah oui, j'espère qu'elle sera aussi grande que la dernière fois, voire plus, et avec des qu'on puisse mettre nos petites mimines sur pas mal de jeux bien sympas. Ce
Avec une
serait
meilleure gestion des stands quand même. Ça serait pas
ouais,
mal.
avoir
Enfin,
un petit peu plus d'espace, ouais.
surtout les stands sur MMO, n'est-ce pas?
Oh là là.
Si tous les stands pouvaient être comme celui de Skyrim, ça serait pas mal, tu vois.
Ouais, mais qu'on puisse s'asseoir, qu'on ait le temps et voilà. Mais non, moi personnellement, c'est bon, pas forcément sur la taille des stands, mais sur la taille des allées. Parce que franchement, le Paris Games Week, c'est en train de devenir une vraie bombe, et il faut vraiment qu'on pense à toute la population qui est à l'intérieur de la porte de Versailles, et il faut fluidifier un petit peu le trafic, quoi, parce que c'est horrible sinon.
Et puis
Donc
aussi, il y a
voilà,
peut-être
PS 2000.
plus de conférences, j'en ai, bon, on va pas refaire le bilan qu'on avait fait de la Paris Games Week, on
Ouais.
vous renvoie au podcast dédié, mais voilà, moi, plus de conférences, je suis demandeur, et pour reprendre la parole d'un ami, les jeux sur téléphone portable, tablette, etc., ça serait peut-être pas mal qu'ils débarquent aussi, même si personnellement ça ne m'intéresse pas, j'avoue que ça commence quand même à prendre de plus en plus d'ampleur, et que un gros salon comme ça ne traite pas du sujet, ça pose problème, je pense, quand même.
C'est vrai.
Donc
Bon, après, faudrait pas non plus qu'il phagocyte tout l'espace,
non mais
mais qu'il soit présent.
franchement y a moyen je veux dire franchement vu l'espace gaspillé l'année dernière je veux dire avec les stands de skate c'est bon quoi hein, on peut se permettre de rajouter des téléphones portables à la place hein.
Par contre, s'ils pouvaient encore organiser du StarCraft 2 et
Ouais.
des compétitions comme ça serait vachement cool, quoi.
Ah,
Donc,
d'ailleurs, à propos
moyen.
de StarCraft 2 on va se dépêcher de finir ce podcast hein, parce que j'aimerais quand même voir un match ou deux de la MLG n'est-ce pas hein.
Un gros big up à Gamekult quand même parce qu'ils font
franchement,
un
bravo
super
messieurs.
travail.
En plus, bravo à eux pour être allés chercher du gros shootcaster, hein. Quand même, ils ont recruté du beau monde. Et
Ouais.
franchement, hier soir, donc c'était là, il faut savoir qu'on enregistre ce podcast le samedi, et on a passé en gros une nuit blanche. Hein. Enfin, non, pas une
Une
nuit blanche,
blanche, oui.
mais
Si,
enfin
si.
non. Personnellement, j'ai quand même dormi. Hein, faut pas déconner. J'ai une nuit. Là, j'ai une vraie nuit blanche ce soir, donc j'avais
Oh là.
besoin de dormir. Mais on est resté réveillé personnellement jusqu'à 8h du matin donc mais ça a terminé vers 6h et franchement c'était beau hein. Ça fait plaisir de voir un site français qui arrive à avoir un partenariat comme ça
Avec de la vraie qualité, quoi. Enfin, le stream, le live, aucun problème. Des commentateurs, évidemment, hyper forts. Enfin, franchement, un vrai bonheur à suivre.
Voilà, donc c'est terminé pour les aides cette semaine. On va passer donc à ton jeu, n'est-ce pas, mon cher Mordrain?
Oui.
Et ce jeu, cette semaine, c'est...
Warhammer 40 000 Space Marine.
After the experimental device. If I die, you must keep the device out of enemy hands.
The orcs have massacred the Forge World's forces.
This whole planet has gone mad. Captain Titus, are you there?
Spill humanity's blood across the stars. This day's getting interesting.
Eh oui, c'est un
Ah.
TPS. Alors bon, pour resituer un petit peu quand même les ignorants qui ne sauraient pas ce que c'est que Warhammer, c'est un jeu de figurines développé par Games Workshop. Donc c'est en gros, on peut dire le leader au moins européen, si ce n'est mondial du jeu de figurines. Et donc il y a deux jeux phares qui sont Warhammer, qui est situé dans un monde fantastique avec des batailles fantastiques avec des orques, des nains, des gobelins, des vampires, des bon. Tout ce que vous voulez, et vous avez son pendant donc futuriste qui s'appelle Warhammer 40 000, donc comme son nom l'indique, il se passe dans le 41e millénaire, et donc là, cette fois, vous avez des Space Marines, des orques, des tyrannides qui ressemblent un petit peu aux Zergs, des Eldar, enfin bon, tout ça. Ça
En même
donne
temps,
un...
j'ai envie de dire, c'est normal que ça ressemble aux Zergs, les Tyranides, parce que les Zergs
Exact.
sont pompés à mort sur les Tyranides. Et bon, de toute
Exactement.
manière, d'une manière générale, StarCraft est pompé à mort sur Warhammer 40 000 quand même. Soyons honnêtes,
Exactement. Donc
hein.
si vous aimez StarCraft, vous aimerez certainement Warhammer 40 000. Et donc bah, pour parler de Warhammer 40 000, il y a vraiment eu une espèce de profusion de jeux bah, dans les 10 dernières années autour des univers de Games Workshop. Donc que ce soit Warhammer dans la fantasy et de Warhammer 40 000 qui a eu des jeux stratégie, donc Dawn of War, des FPS, bon, un petit peu moins bon quand même, mais franchement, l'idée c'est que la licence bah, prolifère un petit peu dans le jeu vidéo, c'est pas forcément un mal. Et donc en 2011 est sorti donc un TPS, cette fois dans l'univers de Warhammer 40 000, Warhammer 40,000 Space Marine, c'est édité par THQ, développé par Relic Entertainment, donc c'est eux qui avaient fait les Company of Heroes, c'est eux qui avaient fait les Warhammer 40,000 Dawn of War et Dawn of War 2, et donc ils connaissent bien l'univers quand même, donc ça c'est pour resituer un petit peu. C'est sorti donc le 6 septembre 2011, donc ça fait quand même un petit moment. C'est sorti sur Xbox 360, PS3 et PC, et c'est un PEGI 18, voilà. Comme ça, vous savez tout.
Ah ouais, donc... des marines avec des tronçonneuses qui, avec des litres, des hectolitres de sang, d'orques, de tyrannides. Et effectivement, on comprend que ça soit PEGI 18.
C'est ça. Donc en fait, donc je vais pas vous parler de Warhammer 40,000, je vous en parlerai peut-être un autre jour, j'en sais rien. L'idée de cet univers-là, c'est dans le 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits mondes tout roses, il n'y a pas de petits trucs mignons, il n'y a que la guerre, d'accord? Donc ouais. c'est un truc vraiment, vraiment, vraiment fort, vraiment sombre, c'est-à-dire qu'il y a la guerre perpétuelle entre les différentes races de l'univers avec une entité quand même assez forte et qui essaie de survivre aux assauts des Xenos, donc des aliens, c'est l'Empire. L'Empire qui est divisé, qui a ses armées et composé donc de la Garde impériale qui sont des humains et des Space Marines. Les Space Marines donc c'est des humains génétiquement modifiés qui sont dans des énormes armures et qui sont divisés en fait dans ce qu'on appelle des chapitres. Et donc le chapitre qu'on va suivre dans Warhammer 40,000 Space Marines, ce sont les Ultramarines. Donc c'est les ceux qu'ils ont, ils sont dans une armure bleue. Et en fait c'est donc les Space Marines les plus emblématiques en fait de l'univers de Warhammer 40,000. Voilà. Donc bon, pour parler un petit peu de l'histoire, y a une planète qui s'appelle Graia qui est un monde forge en fait. Donc c'est une espèce d'usine géante qui est donc cruciale pour l'Empire. Qui est attaqué par des orques. Donc les orques, c'est les némésis habituels des Space Marines.
Quand même, oui, je précise, les orques, c'est les principaux ennemis de l'Empire, de l'Imperium. Mais bon, en gros, l'Imperium est seul contre tous. Hein.
C'est ça.
Faut se dire ça. En fait, ils ont pas un seul pote. Même parmi peut-être la seule race gentille, je crois, qu'il y a dans tout l'univers de Warhammer 40,000, même eux, ils sont ennemis avec Imperium, je crois, il me semble.
Donc l'idée, c'est que les Ultramarines sont appelés en renfort pour sauvegarder les pièces d'artillerie les plus importantes, parce que ça coûte extrêmement cher et que c'est très très important de les sauvegarder. Et l'idée, c'est de repousser l'envahisseur quand même. Donc généralement, les orques, c'est l'ennemi un petit peu hyper brutal, mais pas forcément hyper intelligent, qui est mené par le chef de guerre, donc qu'on appelle le Big Boss. Et donc l'histoire va nous faire rencontrer donc des orques, donc les ennemis un petit peu stupides quand même, et les Space Marines du Chaos, donc ils sont le pendant des Space Marines, mais les méchants. Donc eux, ils combattent plus à distance, ils sont un petit peu plus forts, beaucoup plus résistants.
C'est des marines corrompus par le mal, quoi, tout simplement.
Exactement. Donc ils vénèrent des dieux un peu difformes et qui eux-mêmes sont en train de se transformer, de se liquéfier. Bon, bref, peu importe. Et donc au niveau du scénario, franchement, c'est hyper banal, c'est ultra prétexte pour.
J'ai envie de dire, c'est le scénar classique de Warhammer. Il y a une planète qui est attaquée, on envoie les chapitres et hop, on nettoie tout, quoi.
C'est ça. Donc bon, à savoir que donc dans les Dawn of War, on suivait le chapitre des Blood Raven, donc avait été inventé pour l'occasion. Là, c'est les Ultramarines, donc on reprend l'univers des Ultramarines et donc des personnages qui sont inventés par contre pour l'occasion. Donc le scénario ultra banal, y a un twist qui est super attendu, donc franchement c'est toujours le même en fait, donc en fait c'est genre t'as le premier ennemi, donc l'orc, qui est pas forcément super stupide, et puis d'un coup tu te dis mais ils ont des comportements un petit peu plus intelligents que d'habitude, mais que se passe-t-il? Et en fait tu te rends compte qu'il y a quelqu'un derrière, bon, comme d'habitude quoi. Sinon, par contre, je trouve que les personnages sont pas spécialement attachants. Le personnage qu'on joue, donc c'est le capitaine Titus.
J'ai envie de dire, le personnage de base dans Warhammer 40,000, je comprends qu'il soit pas super attachant.
Non, mais je veux dire attachant dans le sens où tu peux, t'es content d'aller le retrouver dans ton aventure, tu vois.
Ouais, non mais voilà quoi. Non mais je veux dire, attends. c'est Warhammer, quoi. C'est les mecs, c'est le personnage de base, c'est le gros bourrin qui est venu pour nettoyer, quoi. Ça va pas plus loin, quoi.
C'est ça, mais dans le même genre, t'as un Gears of War qui quand même réussit à te tisser des relations avec les personnages. Là, c'est pas le cas. Bon, après, c'est pas du tout l'objectif premier d'un TPS, cela dit, donc là, je vais vous parler du gameplay quand même. Donc c'est, si tu veux, c'est un TPS qui se veut nerveux, avec évidemment du tir, mais aussi du corps à corps. Et ça, c'est quelque chose qui vient du coup du jeu de plateau, c'est-à-dire que t'as des phases de tir et la phase de corps à corps, et donc le jeu est vraiment basé sur le mouvement.
Et, avec des épées tronçonneuses, c'est ça ?
C'est ça, notamment, ou alors des haches énergétiques, des marteaux énergétiques qui poutrent bien. Et du coup, c'est plutôt pas mal fichu parce que t'as toute la phase de mouvement où tu tires en même temps que t'arrives au corps à corps. Et quand t'arrives au corps à corps, eh ben, tu sors ton épée tronçonneuse, par exemple, ta hache ou ton marteau. Et là, c'est parti pour les combos. Et là, donc, au niveau des combos, ils sont franchement faciles à sortir. Ça se base sur deux boutons, donc c'est franchement pas,
ouais,
franchement
en gros, c'est pas Bayonetta, quoi. C'est pas un truc super
clairement
pointu,
pas.
Avec des timings de fou, voilà.
Non, vraiment pas, parce que bon, d'autant plus que ça se joue sur deux boutons et que c'est vraiment pas très difficile. C'est genre XA, XXA, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas, il y a pas beaucoup de boutons, les combos sont pas très variés. Au niveau de la réalisation, c'est toujours la même réalisation que tu vas presser sur les boutons, mais au niveau du visuel, quand tu changes d'arme, tu as une animation différente. Donc l'idée c'est que le jeu va vraiment te pousser à aller au devant du combat parce qu'en fait les exécutions qui sont sanglantes évidemment puisqu'on est dans Warhammer 40 000 sont le seul moyen pour toi de récupérer ta santé, la santé que t'as perdue au combat en te faisant tirer en dessus ou en te faisant taper. Et en fait t'as ton bouclier qui se régénère, ta santé qui baisse et l'idée en fait, le seul moyen de récupérer ta santé c'est d'exécuter un ennemi. Donc pour ça en fait il faut le stun, donc l'étourdir et ensuite appuyer sur le bouton B pour l'exécuter, déclencher un combo final pour l'exécuter et là tu vas récupérer un petit peu de santé. Donc l'idée c'est que c'est vraiment le seul moyen pour toi de récupérer ta santé. Donc du coup on voit vraiment que t'as le jeu qui veut vraiment que t'ailles au corps à corps, quoi. Et c'est un petit peu pour la même raison que le jeu n'intègre pas de système de couverture. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, dans les TPS, généralement, tu as un système de couverture qui est relativement
en fait,
abouti.
Moi, je t'avoue, la couverture dans les TPS, bah, c'est ce qui fait que je suis pas spécialement fan du genre. C'est que vraiment, touche trop souvent les TPS, c'est je me planque derrière un mur, j'attends, je tire, je remonte le rang, je tire. Enfin, c'est vite chiant, quoi.
Et ça, je suis super d'accord avec toi. Mais il y a des endroits dans le jeu où c'est nécessaire d'avoir une couverture. Genre, il y a des moments où t'es en mode sniper, où t'aimerais bien quand même pouvoir te cacher derrière un mur quand même. Ou alors des moments où t'as que des ennemis qui sont au corps à corps, au tir à distance, pardon. Et là, t'aimerais bien te cacher un petit peu parce que là, t'as l'impression d'être un pigeon, quoi.
Non, mais mec, attends, t'es un Space Marine, tu te caches pas derrière les murs. Un Space Marine, ça se cache pas derrière les murs.
Mais sinon, au niveau du design général du jeu, franchement, ça se comprend, ce choix-là. Et là encore, l'idée, c'est que t'ailles au corps à corps parce que le Space Marine, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, qui va au combat, quoi. Il y a pas de faible dans les Space Marines. C'est-à-dire que si tu vas pas au combat, bah, tu te fais tirer dessus par tes copains, quoi. C'est ça l'idée. Donc, mais c'est vrai que, à partir d'un certain moment, t'as beaucoup plus d'ennemis qui te tirent dessus plutôt qu'ils te foncent vers toi pour avoir du corps à corps. Et du coup, il y a certains moments, qui deviennent un tout petit peu plus durs parce que t'as pas de couverture. Et bon.
Juste une question. Là, dit comme ça, en fait, les ennemis, ils m'ont l'air assez stupides, en fait. Hein.
C'est ça. En fait, ça marche très bien avec les orques, parce que un orque va te foncer dessus quoi qu'il arrive, parce que un orque, ça va pour le combat au corps à corps. Alors, ça te tire dessus un tout petit peu, parce qu'il y en a qui ont des énormes mitrailleuses, mais le gros de la troupe orque va te foncer dessus. Et donc ça, dans l'univers, ça fonctionne très bien. Et donc dans le jeu, t'as vraiment une première partie où c'est que des orques que tu te farcies. Et donc ça fonctionne très bien au niveau de l'IA. Après, donc quand tu passes vers les Space Marines du Chaos, tu as des ennemis qui sont beaucoup plus statiques et qui te tirent dessus plus. Et donc du coup ça change au niveau du design et au niveau de ta façon de combattre, parce que du coup au niveau du corps à corps dans cette partie-là il y aura très très peu de corps à corps, parce que du coup c'est difficile d'arriver au contact.
Mais et du coup, est-ce que le jeu devient pas trop chiant justement?
Et ben voilà, c'est moi personnellement, j'ai adoré la partie orc. J'ai beaucoup moins apprécié la partie Space Marine du Chaos, parce que justement t'as plus cet aspect jouissif du combat au corps à corps, parce que une fois que t'arrives au corps à corps devant un Space Marine du Chaos, déjà c'est pas sûr que tu le tues parce qu'il a la même armure que toi quand même. Et deux, t'as trois mecs qui t'ont déjà tiré dessus.
Même j'aurais tendance à dire il a la même armure que toi en mieux, hein, parce qu'en général c'est ils sont assez bien équipés. Hein.
et le problème en plus c'est que t'as trois de ses copains qui t'ont déjà tiré dessus pendant que t'arrivais au contact. Et c'est pour ça que c'est compliqué du coup de se la jouer Terminator et de foncer vers le combat. Et donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une petite contradiction au niveau du design du gameplay justement dans le jeu, parce que il y a justement des ennemis qui sont différents l'un de l'autre. Alors donc dans l'esprit c'est une bonne idée, mais il y a une contradiction au niveau du gameplay basique du jeu. Donc c'est pour j'étais pas super content qu'il y ait au moins dans cette partie-là la possibilité de se couvrir, quoi.
Ouais, au moins tu vois d'avoir un système peut-être une partie bitémol qui évolue, qui rajoute des combos, enfin je sais pas, qui permettent avec des adversaires qui contre, etc. Mais le problème c'est que ça, tu vois, enfin, ça c'est par exemple c'est présent dans Bayonetta. Mais c'est un truc, c'est au niveau du game design, c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'un ennemi qui reste statique et qui attend que tu viennes, quoi. Enfin,
Donc bon, c'est un petit peu le déséquilibre qu'il y a dans ce jeu, c'est-à-dire que la première partie est totalement dans l'esprit, la deuxième partie est un tout petit peu moins bien réussie à mon sens. Voilà.
Ok.
Mais c'est dommage parce que bon, c'est dans l'esprit, c'était ça qu'il fallait faire. Donc il y a de l'idée. Mais en fait, le vrai souci du jeu, c'est sa répétitivité. Parce qu'au niveau du bestiaire, c'est pas assez varié à mon avis. Donc au niveau des orques, donc t'as l'orque de base, t'as l'orque qui va te mitrailler, et tu as les petits Gretchen, donc sont des gobelins en fait, qui eux aussi sont ultra stupides. Et puis après, tu as les espèces de boss, quoi. Et c'est tout pour les orques. Et après, t'as les Space Marines du Chaos. Donc des espèces de sous-fifres que tu tues en deux secondes, tu as le Space Marine du Chaos de base, et puis tu as des mecs qui utilisent l'énergie du warp. Mais c'est tout au niveau du bestiaire, et du coup ça manque un petit peu de variété, et le jeu donc dure 8-10 heures, et en fait, le problème, c'est que on reste à peu près toujours dans les mêmes environnements, toujours avec les mêmes ennemis, toujours avec les mêmes mécaniques, ce qui fait que, au bout d'un moment, tu commences un petit peu à t'essouffler. Voilà, parce que bon, 8-10 heures, c'est pas non plus énorme, mais quand c'est aussi répétitif, il y a quand même une lassitude qui commence à venir, quoi. Donc c'est vrai que, moi, je trouve qu'il y a vraiment la première partie qui est mémorable. La deuxième partie, bon, moins géniale.
Et du coup, c'est un jeu que tu recommandes de case, ça, ou plutôt de case?
Très franchement, je vous dis de l'acheter neuf, parce que neuf, il est tombé à 10 euros, donc voilà. Ah, d'accord. Je vais pas vous dire de l'acheter en occasion. Donc, il suffit de chercher un tout petit peu sur les sites de vente en ligne et vous l'avez à 10 euros. Donc, franchement, en plus, neuf, vous avez le pass en ligne multijoueur. Donc
pour toi, voilà, 10 euros, il vaut le coup, quoi.
Oh bah clairement, 10 euros, franchement, c'est un petit, c'est du divertissement assez accessible. T'as aucun souci. Enfin, c'est franchement, en plus, ceux qui sont fans de l'univers, vous allez vraiment apprécier. Ceux qui connaissent pas, c'est peut-être une porte d'entrée, pourquoi pas. Même si je vous conseillerais peut-être plus les Dawn of War. Qui sont un petit peu plus profonds et qui ont une durée de vie quand même beaucoup, enfin supérieure, quoi. Et donc, juste pour terminer, il y a quand même un mode multijoueur dans ce jeu. Très franchement, c'est pas la feature qui vous fera acheter le jeu, parce que le mode multijoueur est ultra classique.
Mais il y a encore des gens dessus.
J'ai envie de dire qu'il y a pas grand monde. Pourquoi ? Parce que moi, je suis arrivé donc au niveau 1 et je suis tombé sur que des mecs qui étaient niveau 40. Donc il y a pas beaucoup de nouveaux entrants. Hein.
Tu t'es senti un peu seul.
Un petit peu seul, d'autant plus que quand tu l'as en occasion ou en prêt, tu as un passe en ligne à débloquer. Donc moi, j'ai pas eu.
D'accord. Super.
Mais attention, parce que tu peux tester en fait le jeu jusqu'au niveau 5 gratuitement, et donc continuer à tester le jeu, peu importe. Resteras au niveau.
Voilà, ça reste un passe en ligne. Franchement, je trouve ça.
Ouais, mais d'habitude, t'as pas payé, tu touches même pas, t'as même pas le droit de regarder l'écran du multijoueur, tu vois. Donc, c'est quand même un test. Il y a juste, bon, comme d'habitude, des objets de classe à débloquer au fur et à mesure des niveaux, et puis le fait qu'un joueur peut développer une classe de combat selon son attitude de jeu, donc la classe dévastateur, donc le mec il va poser sa grosse mitrailleuse par terre, donc il va rester super statique, mais il va tirer hyper rapidement, il va être ravageur. Donc ça peut être selon votre sensibilité, vous pouvez choisir de développer cette classe-là, ou le marine d'assaut, donc là qui est ultra mobile avec un jetpack derrière le dos, mais du coup il est un petit peu moins puissant, mais plus rapide à choper des points, les points statiques dans la map qu'il faut capturer. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va débloquer des capacités via les niveaux, donc c'est hyper classique. On s'amuse un petit peu, mais c'est pas spécialement sur la durée qu'on va développer un skill monstrueux. Je pense que c'est sympa de temps en temps, mais c'est pas vraiment la peine d'acheter un pass en ligne pour ça, si vous l'avez en occasion. Après, bien sûr, si vous l'achetez à 10€ en neuf, vous privez pas d'utiliser le pass en ligne, hein, mais voilà. Donc au final, donc pour terminer, c'est un TPS que je trouve plutôt banal, mais que les fans apprécieront pour sa licence. À 70€, il aurait eu du mal à convaincre les amateurs du genre. À 10€, franchement, vous pouvez vous laisser tenter, parce que.
Et pour les amateurs de beat'em all aussi peut-être, non ?
Non. Non, parce que c'est vraiment plus un TPS qu'un beat'em all, surtout pour la deuxième partie. Franchement, les amateurs de beat'em all, ce qu'ils aiment, c'est le challenge de mettre des combos bien partout. Franchement, là, c'est vraiment basique, hein, comme partie beat'em all. C'est beaucoup plus pour le défouloir du truc. Il y a pas de challenge. Donc moi, je l'ai fait en niveau normal. Je suis pas mort beaucoup, mais non. 10€, c'est sympa. C'est franchement, en 9-10€, ça vaut vraiment le coup. C'est pas le jeu du siècle, clairement pas, mais pour 10€, franchement, ça s'apprécie. Voilà.
Bon, bah voilà, on a terminé avec notre jeu du moment, n'est-ce pas ? Et nous allons donc passer au point culture. Et le point culture cette semaine, c'est un anime, et cet anime, c'est Hanover.
いいよ。もう始まってるかもしれない。
1972. Misaki, une lycéenne, est retrouvée morte. Choquée, ses camarades de classe décident quelque chose de très étrange. L'un d'entre eux désigne son bureau et dit alors « Misaki n'est pas morte ». Aussi bizarre que cela puisse paraître, tout le monde semble accepter cette idée. De l'élève au professeur, chacun fait comme si la jeune fille était vivante. C'est alors que quelque chose d'étrange va se passer. 26 ans passés. Sakakira Koichi, fraîchement débarqué de Tokyo, se retrouve transféré dans ce même établissement. Souffrant, le jeune homme est hospitalisé dans l'hôpital local. Et une nuit, il croise, au détour d'un ascenseur menant à la morgue, une jeune femme. Interloqué par cette jeune fille portant un cache-œil, il demande « Quel est ton nom ?» La jeune femme lance alors « Misaki Mei ». Donc, à 9h, pour vous présenter un peu cette série, donc vous l'aurez compris par rapport au pitch, il s'agit d'une série d'horreur, d'animation japonaise. Une série vraiment avec une ambiance, je pense que vous l'avez compris, assez oppressante, avec un pitch vraiment, peut-être pas original pour le genre, certes, mais qui est très bien animé, je trouve. Il y a vraiment une ambiance. T'as, dès les premiers instants, tu vois, je sais pas si c'est les couleurs ou il dégage quelque chose, quoi. C'est une série qui met vraiment pas à l'aise. Il y a toujours une espèce d'ambiance un peu glauque, tu vois, qui est en arrière-plan. Alors en plus, par rapport au pitch dont je vous ai parlé, il faut savoir, donc lui, il est fraîchement débarqué de Tokyo, et il est accueilli par ses camarades de classe. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment des camarades de classe étranges. Parce qu'il pose des questions bizarres. Enfin, t'as déjà la première fois qu'il croise ses camarades de classe, donc il lui rend visite, il y pose des questions, mais on dirait que c'est un interrogatoire, quoi. C'est des mecs pas accueillants, enfin, tu vois, un peu comme dans ces films américains où t'as le bouseux de base, pas du tout accueillant, pas du tout chaleureux, ouais. Même peut-être, même glacial. Bah, c'est ça. C'est vraiment, au départ, quand t'arrives, c'est vraiment ce type d'ambiance, transposé au Japon, bien entendu. Par contre, je vous préviens, ce n'est pas un anime pour les jeunes, c'est un anime glauque, d'horreur, mais vraiment. Et donc, il y a du sang, quoi. Va y avoir du mort, ça va saigner, quoi. Ça va saigner partout. Va y avoir des scènes assez choquantes visuellement.
D'accord.
Notamment une scène avec un parapluie. Je vous en dirai pas plus, mais franchement, c'est voilà, quoi.
C'est gore, en fait, ou c'est gore, ou ouais. C'est dérangeant.
C'est pas non plus super gore, mais il y a au moins une scène dans l'anime. Il faut avoir le cœur qui s'accroche, quoi, parce que c'est vraiment. Si vous aimez pas les trucs un peu dégoulinants avec la chair, tu vois, faut pas y aller, quoi. C'est pas tout le temps comme ça, encore une fois, mais il y a au moins une scène dans cet anime qui va vous choquer, quoi, je pense. Alors, c'est peut-être pas forcément un anime qui fait peur, si tu veux, mais c'est un anime intrigant, avec des mystères. En plus, les personnages sont vraiment très intéressants. Enfin, je veux dire, c'est pas des têtes à claque, quoi. Même si peut-être le héros, on pourrait dire, je pense qu'il plaira pas à tout le monde, parce que clairement, c'est clairement le perso, tu vois, on lui dit de pas faire un truc, il va le faire. Mais en même temps, j'ai envie de dire.
Oui, bah, comme dans tout film d'horreur, quoi.
Bon, enfin, pour moi, c'est des trucs, il a raison de le faire, parce que, franchement, tu te mets 2 secondes à sa place, quoi. Dire, mais évidemment, tu te poserais des questions que, voilà, quoi, tu essaierais de résoudre le mystère, quoi. À moins soit de te dire, mais putain, je suis en train de venir cingler, surtout que, en plus, c'est un personnage, tu veux. Ce qui est intelligent, je trouve, c'est qu'on te met très bien ça à sa place, parce que, tout comme lui, on te laisse dans le flou. Et en fait, tout comme lui, tu vas découvrir l'intrigue, au fur et à mesure, quoi. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'est un personnage que j'avais pas envie de lui mettre des claques, quoi. Parce que, comme lui, moi, je me l'ai posé les questions, quoi. Et comme lui, je me disais, mais, attends, mais il faut les, c'est évidemment qu'il faut enquêter, quoi. Je veux dire, tu vas pas rester là ignorant alors qu'il y a un truc là qui est sous tes yeux et que tu franchement tu seras à ta place, tu te dis, mais tu deviendrais cinglé, quoi, si tu posais pas les questions et que t'essayais pas de trouver les réponses, quoi. Dès que l'anime commence, tu poses plein de questions, parce que bon, la présentation que je vous ai faite là, le synopsis c'est ce qu'il y a dès le début, enfin c'est les premières paroles de l'anime, quoi. C'est, on te présente cette histoire assez étrange, et on te finit avec un espèce de cliffhanger, tu dis mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là depuis ces 26 ans là. En plus on te dit ouais il s'est passé un truc après et tout, mais tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Ouais. Voilà, donc bien évidemment vous l'aurez compris, il y a un mystère par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis ces 26 ans, qu'est-ce qui se passe avec dans cette école, etc. Bien évidemment, il y a un mystère par rapport à cette jeune fille que le héros croise dès le début de l'anime. Le truc, c'est que le scénar comme ça, les ficelles, elles ont l'air assez grosses quand même. Franchement, moi, j'ai vu le synopsis, je me suis dit, bon, ok, hein, on a compris qui était la jeune fille, hein, tout ça. Non, c'est plus subtil que ça. C'est un anime où, franchement, le scénar a pas mal de surprises. Mais quand même... pour faire des twists au niveau du scénario, je trouve qu'il y a pas mal de fois où ils ont usé, abusé de certaines coïncidences qui tombaient fort bien, on va dire.
Donc ouais, mais c'est pas trop gros justement, parce que, ou alors c'est tout à fait logique dans l'univers.
Bah disons que il y en a une quand même. C'est franchement, elle a eu du mal à passer, quoi, on va dire. Mais bon, en général, ça passe assez bien.
D'accord.
Mais il y en a vraiment une, tu dis bon. Ouais, là quand même, vous me prenez un peu pour un con, monsieur. C'est un peu gros, quoi. Je veux bien qu'il y ait des coïncidences comme ça, mais celle-là, elle est un peu énorme, quoi. Bon, d'un côté, bon, ça, mine de rien, malgré ça, ils ont quand même réussi à produire un scénar qui est surprenant. J'ai vu le scénario, mais j'ai fait, mais attends, c'est gros comme une baraque, et ça marche peut-être pas comme ça, il y a des doutes, tu vois, on t'instille le doute, à force, ils jouent toujours, tu vois, sur la nuance, voilà, c'est très intéressant, ils arrivent à t'instiller le doute, et ça, je trouve ça très bien. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a un défaut à cette série, et ce défaut, c'est sa fin. C'est sa fin, mais pourquoi vas-tu me dire, mon cher Morvan ?
Ah oui, parce que ça partait plutôt pas mal, de ce que tu me disais quand même là.
Ah ouais, non mais ça partait plutôt pas mal, parce que vraiment, si tu veux, les 9, allez, le 10e, bon, il était peut-être un peu en dessous, mais encore ça allait, je trouve. Et là, les deux derniers épisodes, je sais pas ce qui s'est passé. Les mecs ont rushé à mort leur scénar. Au niveau des relations entre les personnages, ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps, si tu veux, d'installer une émotion. Alors que là, justement, jusque-là, l'un des points forts de la série, je trouve, c'est qu'ils arrivaient toujours à installer une ambiance, un truc, tu vois, il se passait quelque chose. Alors que là, non seulement ça va trop vite, mais en plus, tu veux, t'as des passages qui sont censés faire dans le drame. Mais comme ça va tellement vite, en fait, ça vire presque au comique, tu vois, parce que... Je sais pas si tu imagines, par exemple, tu sais un peu ces films, ces parodies de films d'horreur, et t'as les mecs, y a les morts les plus connes possibles que tu puisses imaginer, quoi.
Ouais.
Et le mec, tu dis, il va s'en sortir, et bah non, il s'en sort pas, et finalement, il y a un truc qui... bah c'est ça. Et... D'accord. Alors que jusqu'à maintenant, justement, c'est l'une des qualités de la série, c'est que tu ressentais la tension, le truc, enfin, il se passait quelque chose. Et du coup, ça gâche tout, quoi. Aïe. Et en plus de ça, bon, on va dire que je pense que tous ceux qui ont regardé cette série sont peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, ça c'est mon opinion et je l'assume. Je pense quand même que cette fin reste cohérente avec l'ensemble de la série. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai que il y a des révélations sur cette fin qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe.
Ouais.
Pourquoi elles arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe ? En fait, les indices, mis de rien, parce que j'ai pris le temps de re-regarder la série, parce que je me suis dit, c'est pas possible, ils ont pas pu faire une fin aussi merdique, il y a un truc, quoi. Ils ont pas pu faire une fin à Mass Effect, c'est pas possible. Et en fait, le truc, c'est que, quand tu re-regardes la série, tu te rends compte qu'ils avaient laissé des indices.
Ah.
Mais le truc, tu vois, c'est genre, la petite phrase de machin, autour d'une petite scène anodine, tu vois, le genre de truc auquel tu ne fais absolument pas attention quand tu regardes la série.
Ouais.
C'est un petit détail, un petit truc. Mine de rien, ça aurait pu être pas mal si ils avaient pris plus le temps déjà sur la fin pour bien amener la chose, et si peut-être ils avaient insisté un peu plus sur certains détails pour que, tu vois, les gens, ils aient un doute. Parce que l'une des qualités aussi, je trouvais, de la première partie de cette série, c'est qu'il y avait, sur d'autres mystères, ils arrivaient à mettre plusieurs pistes, tu vois. Mmh. Alors que là, franchement, la piste qu'ils ont dévoilée pour la fin, c'est un truc auquel, mais du coup, personne ne s'attendait, quoi. Mmh. Tellement les indices, on les voyait pas. Et donc, ben voilà. C'est, franchement, j'ai été très, très, très déçu par la fin. Mmh. Alors, attention, hein, je dis pas que l'anime est mauvais. Bon, certains seront pas d'accord avec moi. Ouais. Moi, je continue de penser que ça reste un anime très sympathique, mmh. Qu'il y a une ambiance, et que rien que pour ça, quand même, ça vaut le coup, même si mmh. il est vrai. Et ça, c'est vraiment très dommage, parce que je pense que ça aurait pu être l'un des tout meilleurs animes de l'année. Mais là, malheureusement, bah écoute, c'est ce qui arrive parfois. T'as une bonne série, mmh. et la mauvaise fin, ça casse tout, quoi.
Bon. Ouais, et c'était une one shot en fait. Peut-être que, enfin, s'il y a pas de saison 2, peut-être que c'est, ils ont pas eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient au niveau du scénario, peut-être.
Si tu veux, en fait, c'est l'adaptation d'un roman à la base. Ouais. Cette série. Ouais. Alors, le truc, c'est que je me dis, il y a aussi un manga. Mmh. Et peut-être le manga, si le mec se démerde pas trop, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très très bien, quoi. Mmh. Parce que là, vraiment, je te dis, c'est sur les deux derniers épisodes, ils avaient pris le temps, je suis persuadé que ils auraient pu bien amener le truc. Bon, d'un autre côté, tu me diras, ça enlèvera pas le fait que la théorie qu'ils ont dévoilée là, les indices étaient tellement discrets avant que, de toute manière, ça aurait peut-être un surpris. Mmh. Mais mine de rien, s'ils l'avaient mieux amené, tu combines ça avec le fait que, quand tu re-regardes l'anime, tu dis, ah, effectivement, il y avait ça. Mmh. Bah, finalement, j'aurais trouvé l'anime vraiment très bien, quoi. Alors que là, d'accord. Bon, hélas.
Donc là, finalement, c'est juste sympa, quoi. C'est ça que t'es en train de nous dire.
Voilà, c'est juste sympa. Ouais. C'est un anime avec une ambiance un peu glauque, d'horreur, très sympa. Mm-hmm. Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, quoi.
D'accord.
Donc, moralité de l'histoire. Et ça, c'est un truc que je devrais savoir. Attendez les fins avant de vous emballer sur une série, parce que des fois, à la fin, ça peut tout changer, en tout cas ouais. dans les séries où le scénario a une importance primordiale.
C'est sûr.
Et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao !
Ciao !